RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story aujourd'hui. Les grandes gueules qui toute la semaine vous offrent des vacances. Les vacances Bellambra, vous savez que c'est pour vous un séjour d'une valeur de 2 000 euros dans l'un des clubs Bellambra. Vous choisissez la mer ou la montagne. Vous prendrez le catalogue, vous regardez les 45 destinations. Vous choisissez, c'est un all inclusive premium, tout compris premium. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Vous choisissez l'un des plus beaux endroits de France. Ça c'est pour vous, tirage au sort. Le gagnant tout à l'heure à 11h20. À 11h, c'est François Ruffin qui sera dans les GG, dans les grandes gueules. François Ruffin, le député debout de la Somme, il est candidat à la primaire de la gauche. Il se verrait bien à l'Élysée. Si jamais il est à l'Élysée, François Ruffin, il sera un président de la République au SMIC. Pas un sou de plus.
Comme la France.
Pas un centime de plus. Il sera
rien dans
au SMIC, François Ruffin. Et justement, est-ce qu'on va vers une France de smicard quand on voit que notre niveau de vie économique baisse et que tous les pays devant, nous étions devant, sont en train de nous rattraper? On a de quoi s'inquiéter. On en parle avec vous au 32-16.
I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world, but I do.
Les Français moins riches que la moyenne des Européens pour la troisième année consécutive.
Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, un Français est aujourd'hui moins riche qu'un Européen. Nous sommes passés dans la deuxième partie du classement. Par exemple, dans les années 80, le PIB par habitant français nous mettait à la 10e place dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes 25e. Donc ça dégringole. Ces chiffres sont très bons parce que quand on le dit, on dit « Ah, on était un décliniste, etc. » Là, c'est la réalité des faits. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français s'appauvrissent. Et s'appauvrissent depuis plusieurs décennies. Et rien ne semble arrêter, malheureusement, cette pente descendante. Je suis curieux de voir quelles sont les recettes de François Ruffin, qui lui-même veut s'appauvrir puisqu'il veut se payer au SMIC, c'est à l'Élysée. Donc il est tout à fait dans l'air du temps. À ce rythme-là, un Français et un Polonais auront le même niveau de vie à la fin du prochain quinquennat. Parce que la Pologne, pourquoi la Pologne? Parce que la Pologne, c'est le pays qui connaît la plus belle croissance européenne en ce moment. Il y a un boom en Pologne. Et donc, le niveau de vie des Polonais progresse. Et tant mieux pour nos amis polonais. Et malheureusement, le nôtre s'écroule. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que vous le ressentez, tiens? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus pauvre aujourd'hui que les générations précédentes?
La Pologne avait 60% de retard sur notre niveau de vie au début des années 2000. On sera donc à égalité très là avant la fin, effectivement, du
comme quoi le communisme, ça n'aidait pas.
Qu'est-ce que vous en dites, Antoine?
Moi, l'exemple polonais, il me parle beaucoup parce que j'y suis allé quelques fois et que le pays est très agréable. Tu l'as dit, ils ont réussi à mettre un terme au communisme. Ce qu'on n'a pas réussi à faire chez nous. Ils sont libéraux, ils travaillent, on taxe moins, etc. Il y a une envie, on vit bien en Pologne. Deuxième aspect des choses, on nous dit toujours l'immigration est une richesse, les immigrés travaillent. La Pologne n'a pas d'immigrés ou très peu d'immigrés, un peu d'Ukrainiens ces derniers temps. Et pourtant, ils ont une croissance faramineuse. Et puis, on nous dit aussi que l'euro nous protège. C'est grâce à l'euro que ça va mieux. La Pologne n'a pas l'euro. La Pologne, c'est le zloty. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a, dans l'exemple polonais qu'on a pris, le modèle de tout ce que la France fait mal en effet miroir par rapport à la Pologne et toutes les raisons de pourquoi on s'enfonce économiquement. Il faut aussi aller dans des pays comme la Suisse pour voir un décalage de niveau de vie absolu, alors qu'il ne faut pas remonter très loin. Il y a quelques dizaines d'années, les niveaux de vie étaient comparables. Et donc, tant qu'en France, on aura les cerveaux mangés par l'idée socialiste d'égalité, par l'idée de toujours plus d'impôts, eh ben on n'aura pas envie de travailler plus. Et sur ce, je laisse la parole et on va tous travailler.
Sandrine.
Moi, je dis que la Palice n'aurait pas dit mieux. C'est sûr que le Français, il vit de ce qu'il a dans la poche. Moi, en tout cas, ce que je vois au quotidien, c'est chaque fin de mois est un miracle. Et pourtant, vous voyez, je suis avocat. Donc, je me dis juste que comment on fait aujourd'hui pour pouvoir vivre aisément ou ne serait-ce que kiffer un petit peu? En fait, on est plus dans l'impression de survie. Et c'est normal qu'aujourd'hui, la France est de moins en moins riche puisqu'on a de moins en moins d'industrie. On est plus un pays de services. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je disais que la Palice n'aurait pas dit mieux.
Abel.
Et puis aussi, quand on va aux racines des problèmes, problèmes. T'as un, la qualité de la formation à la française qui n'est plus du tout une référence. On le voit, les études PISA, le niveau des écoles. Tu as la durée du travail, donc les 35 heures qui est une immense connerie et je pense qu'on l'a répété assez de fois. Et il y a aussi l'employabilité et des jeunes et des anciens, je dirais. C'est-à-dire que l'âge moyen en France du premier travail stable, c'est 29 ans, quand en Allemagne, c'est 23 ans. Et on sait qu'après 50 ans, si je voulais être taquin, je dirais que Alain et Olivier, vous êtes presque des miraculés à vos âges de pouvoir continuer à travailler aussi durement. Donc, il y a cette problématique-là. Et comme on travaille moins, mais forcément, on est moins productif, du coup. Donc, à partir du moment où on a moins de productivité, plus l'euro, plus le fait qu'on est le pays le plus taxé au monde, faut pas s'étonner que notre niveau baisse. Mais ce qui est terrible, c'est que quand le Royaume-Uni est passé par le Brexit, on a annoncé que ça allait être le cauchemar, qu'ils allaient s'écrouler. Le niveau de vie d'un homme ou d'une femme habitant au Royaume-Uni est supérieur à celui d'un Français ou d'une
Française. Il ne faudrait pas non plus, une fois plus, dire que tous nos problèmes viennent de l'Europe ou de l'euro.
Non,
formation, la Pologne.
Et on ne travaille pas assez.
La Pologne n'a pas l'euro, mais quand même a profité aussi de l'Union européenne, comme les pays de l'Est qui ont permis, quand ils sont sortis du communisme, l'Union européenne a permis à ces pays aussi de progresser. Mais d'autres pays, comme l'Espagne, il y a un miracle économique espagnol. L'Espagne, c'était vraiment le pays pauvre de l'Europe. D'ailleurs, les Français partaient en Espagne en vacances, parce que c'était pas cher. Aujourd'hui, la croissance espagnole est extraordinaire. Mais ce qui est terrible, c'est que vous vous souvenez du plombier polonais ? On avait peur de l'arrivée du plombier polonais. Mais peut-être qu'un jour, les Polonais auront peur de l'arrivée du plombier français. On en est là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français, de jeunes Français qui se disent, pour mieux gagner ma vie, il faut que je parte à l'étranger. Et c'est les messages qu'on entend de plus en plus. Donc on va rester entre pauvres, d'autant plus qu'il y a quand même une bonne partie de la classe politique. C'est haro sur les riches, la richesse, c'est suspect. Quand France Hollande nous dit à 4000 euros on est riche, avec forcément un côté péjoratif dans sa bouche. Il
ne
dit pas
c'est
super, il faut plus de riches. Non, ils sont à 4000 euros, ils sont riches, il faut les taxer. Donc ce discours-là ambiant, et qu'on a vu pendant le budget, puisqu'on a continué à surtaxer les entreprises, les plus florissantes, etc., effectivement, on baigne dans un truc qui n'existe pas en Pologne, qui n'existe pas dans d'autres pays. On n'a pas tous ces discours et ces débats hallucinants sur est-ce qu'il y a trop de riches, pas de riches, etc. Ouais, il faut créer de la richesse parce que c'est le seul moyen. D'ailleurs, si on veut sauver notre modèle social, c'est le seul moyen de le sauver.
Ne serait-ce que sur le taux d'imposition des entreprises, la moyenne européenne est à 25% à peu près. Je dis bien la moyenne. En Pologne, c'est entre 18 et 19%.
Ah oui.
C'est aussi.
Et nous, c'est à 30 maintenant.
Et au niveau de la productivité, on était 14e rang. On est aujourd'hui 14e rang mondial. On était 7e en l'année 2000.
Parce que même donc, ça, c'est la productivité qui nous sauvait jusqu'alors. Ben, et donc, si on perd en productivité avec le peu d'heures qu'on travaille, on va se.
Parce qu'on nous disait toujours, oui, c'est vrai qu'on travaille moins, mais on travaille mieux.
Le français est productif.
Attendez, même ça, c'est plus vrai.
On travaille moins et on travaille aussi moins longtemps avec tout le débat sur les retraites. Alors en Allemagne, ça y est, c'est bien positionné. Nous, on est encore là en train de faire des débats.
On est le seul pays au monde à dire qu'il faut partir à 60 ans. Je veux dire, plus aucun pays n'envisage cela.
On ne sait pas qu'on en soit là aujourd'hui.
Comment dire, la fébrilité de certains politique à ne pas comprendre que on va relancer l'économie par la croissance. On l'a répété plein de fois, il faut baisser les charges des petites.
Non, parce que c'est du salaire différé, c'est ce qu'on t'explique.
Oui, mais ça c'est une connerie encore.
N'oublie jamais ça, le salaire différé. C'est-à-dire que tu le récupères ensuite sur l'école, les hôpitaux,
les remboursements. 15 heures d'attente pour être soigné, mais c'est comme...
Et parfois tu en meurs d'ailleurs dans la salle d'attente.
Tout Français a envie d'avoir un logement, un travail, et après avoir payé toutes ces charges, d'avoir des sous pour pouvoir kiffer, pour pouvoir consommer. Tant que l'on comprend pas qu'il faut changer de logiciel et que c'est par la consommation que l'économie va repartir et pas par des hausses d'impôts. Et c'est des choses que l'on dit tout le temps. Si je suis patron d'une petite entreprise, je veux embaucher quelqu'un et le payer à 1500 euros, ça me coûte plus de 3000 euros si on rajoute toutes les charges. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal.
Français,
et c'est
donc on est frileux après.
Les Français moins riches que la moyenne des Européens, c'est pour la troisième année consécutive. Et là, nous sommes rattrapés par les Polonais qui sont donc relevés très rapidement.
Les Polonaises qu'on prenait au petit déjeuner.
De leurs années de communisme. Hervé, bonjour.
Bonjour, messieurs, dames.
Et Hervé, du côté de la Gironde, chef d'entreprise dans le secteur PME,
c'est ça, devenu une TPE dans l'ameublement.
Et alors, est-ce que ça vous fait partir à la renverse ou pas, cette étude, dites-moi.
Si on était surpris, ça me ferait tomber à la renverse, parce que je pense qu'il n'y a pas à être surpris. Aujourd'hui, alors quand on dit la France, moi j'aimerais bien qu'on fasse le distinguo entre les gens qui sont dans le privé et les gens qui sont dans le public, et les gens qui sont dans des grosses entreprises et les gens qui sont dans des petites. Mmh. Et aujourd'hui, le maillage d'entreprises TPE, PME est quand même très important en France, et c'est ce maillage-là, souvent, qui consomment, qui est souvent composé de gens qui sont de la classe qu'on disait moyenne. Et je prends mon cas, vous voyez, moi j'ai une petite entreprise, je suis avec ma femme, on gagne très correctement notre vie.
Mais est-ce que vous appelez très correctement?
Oui, correctement notre vie, c'est-à-dire que on gère nos salaires, donc je vais dire à deux mensuellement, on va être à 6000 euros net par mois. Voilà. Mm-hmm. Et ben aujourd'hui, on a une maison qui a crédit. On a nos voitures qui est à crédit, on a nos frais qui augmentent parce que la consommation aujourd'hui a augmenté, et on a malheureusement une fille à handicap avec des choses qui sont pas prises en charge, qui font que ça nous coûte aussi, et on se rend compte qu'avec un salaire plus ou moins constant sur les 5 dernières années, eh ben aujourd'hui on fait des arbitrages, on est obligé de compter, parce que est-ce qu'on part en vacances, est-ce qu'on fait une rénovation de terrasse, est-ce qu'on fait des travaux chez nous, ou est-ce qu'on va aujourd'hui si on considère que nous faisons partie des riches et donc on participe à l'effort national, aujourd'hui on fait partie de ceux qui vraiment contribuent énormément et de plus en plus. Mmh. Et à un moment donné, il nous en reste de moins en moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va pas augmenter les salaires. Moi, si j'augmente les salaires, ça veut dire que je vais augmenter mes prix. Les clients, à un moment donné, sur les dernières années, les prix ont augmenté de pratiquement 25% après le Covid. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'arbitrer. Et si on considère qu'à mon niveau, aujourd'hui, on est riche, ce que disait M. Hollande ou d'autres, ben, c'est faux. Mais,
et Hervé, regardez, on a inventé la prime d'activité, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on donne une prime aux gens qui travaillent. Et pour financer cette prime, ben on a besoin d'augmenter les impôts, mm-hmm, et d'imposer les Français. Et alors tout le monde dit que c'est complètement débile. Et d'ailleurs, les premiers qui le disent, ce sont les syndicats qui disent, ben non, payons mieux les gens, là, ben on n'a pas besoin de prime. Et pourtant, ce gouvernement-là, le cornu, vient d'augmenter la prime d'activité. Ce qui est une trappe à bas salaire, parce que on touche cette prime à certaines conditions. Et si ton salaire augmente, tu la touches plus. Donc ça pousse tout le monde à garder un salaire proche du SMIC. Donc on est dans une France qui smicardise. Et François Ruffin en est le symbole, puisqu'il peut toucher le SMIC à l'Élysée.
Et tu vois que la valeur du SMIC augmente chaque année. Ça, ce qui est très inquiétant. Et le témoignage d'Hervé est inquiétant.
Et pas le reste, exactement.
À
6000 euros. Et puis dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, on a 40% des Français qui sont actifs et qui aujourd'hui pédalent et payent pour les 60% qui bénéficient de prestations.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre avec les autres pays européens où je crois qu'on est plus proche du 50-50, d'accord, de ce que j'ai entendu récemment. Et à un moment donné, ceux qui pédalent, on en a parlé ces derniers temps, ils sont fatigués.
40% qui contribuent au système et 60% qui en bénéficient.
Alors Hervé, vous me permettez, je voudrais qu'on aille du côté de la Charente écouter un directeur sportif de club de natation, Cyril, qui est avec nous. Bonjour Cyril.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, est-ce que vous sentez vous appauvrir, Cyril ?
Alors en fait, je me considère un peu comme le Français moyen, c'est-à-dire que on a eu la chance d'être propriétaire parce qu'on a eu un héritage sur lequel on a évidemment été ponctionné une somme incroyable. Mmh. Ensuite, on a des salaires plutôt convenables, ma femme gagne à peu près 2500 euros par mois, moi à peu près 2000 euros par mois. Il y a quelques années, nous partions au ski en pension complète. Alors, pas pour un caprice de riche, mais parce que c'était plus fonctionnel, parce qu'on partait en famille à plusieurs, donc on consommait. Notre fils prenait des cours de ski. Nous allions au restaurant, etc., etc. Mmh. Nous allions également au restaurant deux à trois fois par mois pour se faire plaisir. Mmh. Et plus maintenant, uniquement pour les grandes occasions, anniversaires ou choses comme ça. Mmh. On n'épargne plus. On tirait un peu la langue vers la fin du mois, aux alentours du 20, 22. Mais ça, à la rigueur, c'est parce que nous, on profitait de la vie et on consommait. Aujourd'hui, quand le crédit de la maison passe le 5 du mois, on voit ce qui nous reste. Bah, on fait attention jusqu'au 15. Et à partir de 15, on pioche sur nos économies. Et je vous passe tous les soucis dont vous avez parlé jusqu'à présent, la santé, l'éducation, etc. J'ai été malheureusement victime d'un cancer il y a 2 ans. Il a fallu à peu près 3-4 mois pour le diagnostiquer. Parce qu'à l'hôpital, on ne voulait pas me faire passer de scanner parce que je ne rentrais pas dans les cases comme étant un profil dangereux. J'ai perdu 25 kilos en 3 mois. Et puis un jour, on m'a dit, au fait, il faut qu'on vous opère en urgence parce que là, vous êtes sur le point de faire une occlusion intestinale sévère. Et pour l'école, c'est pareil, et pour plein de choses. Donc, on s'appauvrit dans tous les sens, au niveau de la culture, au niveau de la nourriture, au niveau de tout. Donc, je trouve ça un peu triste. Maintenant, j'essaie de voir le verre à moitié plein. J'ai de la chance. Mais je pense aux personnes qui n'ont pas la chance que nous avons, nous, avec l'auditeur précédent. Et qui, eux, Je sais pas comment ils font pour s'en sortir. Vraiment, j'ai de la peine pour ces gens-là parce que je me dis, mais comment font-ils? Ils doivent avoir plus de courage que moi ou que nous. Mais franchement, je suis sidéré par la situation dans laquelle notre pays se trouve. Ouais. Et je n'ai aucune perspective d'avenir pour moi, pour mon fils, pour ma femme. J'ai un projet d'entrepreneuriat. Quand j'écoute les émissions politiques, j'ai renoncé avant même d'avoir essayé.
Ah ouais.
Parce que c'est... Alors que le projet est viable, hein, j'ai fait toutes les simulations, tout est viable. Mais les banques ne prêtent pas, on vous demande un apport incroyable. Qui aujourd'hui, à 50 ans, a 500
ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, on est dans un pays qui ne donne pas l'envie, quoi. L'envie d'entreprendre, l'envie de prendre des risques et l'envie de se dire, un peu parfois comme ça peut être aux États-Unis, derrière, je peux avoir la réussite et même l'enrichissement à la clé. L'enrichissement, c'est pas un gros mot. Mais justement, Cyril, ce que vous dites, ça va faire écho avec Olivier. Olivier, il est en Moselle. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous. Bonjour
Parce
les grands
que gars. Vous avez trouvé la solution. Comme il y a le Luxembourg pas loin, vous allez bosser au Luxembourg. C'est ça.
Écoutez, moi, j'ai commencé à travailler à Luxembourg en 1997. À l'époque, on était 31 000 frontaliers. J'ai regardé les chiffres. On est aujourd'hui 165 000 frontaliers. Le SMIC au Luxembourg, c'est 3 000 euros. Alors, c'est pas parce que c'est un paradis fiscal que Luxembourg s'est développé. Faut arrêter avec ça. Ça fait déjà bien longtemps que ça n'existe plus. Pour avoir des amis dans la finance qui m'ont confirmé une paire de fois, je peux vous le dire. Simplement, on a décidé de moins taxer les entreprises. Donc, on taxe moins les entreprises. Voilà. C'est gagnant pour les entreprises. Ouais. C'est gagnant pour les salariés. Je veux dire, à un moment donné, moi, si j'ai pu, alors je vis en France, évidemment, parce que c'est vrai que l'immobilier au Luxembourg est très cher. Mais à côté de ça, si j'ai pu construire ma maison et payer ma maison, c'est grâce au Luxembourg. Si mes enfants peuvent faire des études aujourd'hui, c'est grâce au Luxembourg. La seule chance que fait la seule chose que la France pour nous depuis quelques années, c'est de nous taxer plus. Ils ont même mis en place depuis un an maintenant une double imposition en nous disant oui, bon, alors vous payez des impôts au Luxembourg, mais nous on va vous en prendre un peu plus en France parce que vous comprenez, on va vous calculer ça différemment.
Mais comment ça se fait vous payez des impôts en France si vous travaillez au Luxembourg?
Ah ben, tout simplement parce
que. Impôts sur le revenu, je parle.
Impôts sur le revenu. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites votre déclaration d'impôts en France, avant, ils vous tenaient compte des impôts que vous aviez payés, donc effectivement, ils calculent deux tranches. Pour les taxes foncières, etc., c'est normal, ça je dis pas. Ouais. Mais là, ce qu'ils ont fait maintenant, ils ont dit, bah écoutez, maintenant quand vous déclarez vos salaires en France, vous ne dites plus combien vous gagnez, combien vous avez payé d'impôts au Luxembourg. On n'en tient plus compte. On va estimer ce que vous auriez dû payer des impôts en France par un pseudo crédit d'impôt. Et comme par hasard, les impôts ont augmenté. C'est quand même bizarre. Ouais. Je veux dire, la seule chose qu'on sait faire, c'est ça. Je fais à un moment donné,
ça. Stop, quoi.
Stop, nous dit Olivier, qui nous a parlé de son expérience de frontalier qui va travailler au Luxembourg. Je vous remercie, Olivier et Cyril, d'avoir été avec nous. Les Français s'appauvrissent. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, 96%, 95,5%.
Il y a quand même 4,5% qui disent non, parce que la question était un peu quand même évidente. Mais la réponse, surtout.
Mais ce qui est terrible, c'est de voir qu'avec 6 000 euros par mois et 4 500 euros par mois, même là, aujourd'hui, la fin de mois est un miracle, pour reprendre ton expression.
Dans un instant, on va regarder ce qui s'est passé du côté d'Oulin. Je pense et j'espère bien le prononcer, Oulin ou Oulins. Une ado de 15 ans qui a été séquestrée et torturée pendant plusieurs jours. 4 jeunes suspects arrêtés, parmi eux des mineurs. Et bien évidemment, on l'a torturée et devinez, on filmait aussi parce qu'aujourd'hui, on filme. Est-ce qu'on est en train de créer une génération de barbares? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Gégé, les grandes gueules, avec vous bien évidemment, il est 10h25, maître Sandrine Pégan, avocate et des nôtres, tout comme l'éducateur Abel Boyi et le conseiller pour les entreprises, l'ami Antoine Diers, le Dunkerquois. On va regarder ce qui se passe.
Oui, toujours, plus jamais. Plus tard que jamais, je me mets
à l'aise. Tu vois, par exemple, il ne dit pas la Marseillaise. C'est quand
même bizarre. C'est vrai. Ouais. J'ai toujours un peu de mal. Ah,
ça se voit pas, je plaisante. Hein.
Je rigole.
T'as pas l'accent en plus.
Quand je m'énerve. Et dès que je récupère l'accent, une fois que je mets le petit orteil sur le territoire marseillais, de suite. Enfant de chichoune.
Allez, on y va. Oulin, une ado de 15 ans séquestrée et torturée pendant plusieurs jours. Est-ce qu'on a affaire à une génération de barbares? C'est une histoire terrible, avec encore une fois un ex-copain qui visiblement veut se venger.
une gamine qui est dans un foyer et un piège qui lui est tendu.
Oui, la jeune fille, elle a 15 ans, elle est dans un foyer à Annecy. Elle accompagne donc son ex-petite amie de 17 ans jusqu'à Oulins-sous-Oulins, Pierre-Bénite, c'est dans le Rhône. Et là, elle va être prise à partie par d'autres filles. Elle va subir un véritable déchaînement de violence. Donc, elle est emmenée dans un sous-sol. Là, l'une des adolescentes lui plante un couteau dans la cuisse. Une autre va asperger son corps du contenu d'un extincteur, la brûlant gravement sur le corps. Et puis le groupe, ensemble, va la déshabiller et lui entailler le dos à de multiples endroits. Elle a réussi, cette jeune fille, à s'échapper. Elle a trouvé des passants. C'était à l'aube, lundi. Elle était en train d'errer, ensanglantée dans une rue de la ville. Les pompiers l'ont immédiatement prise en charge. Les policiers ont réussi rapidement à retrouver le matin même deux des agresseuses dans le logement où l'adolescente avait été emmenée. Et ils ont interpellé dans la soirée les deux autres mineurs, dont le garçon, donc l'ex-petite amie, à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Tous ces gamins, je dis des gamins, mais bon, qui se comportent comme des barbares, sont des mineurs. Que risquent-ils ? Est-ce qu'on est face à une génération de petits monstres qui n'ont pas peur de commettre des violences avec beaucoup de cruauté ?
Génération de barbares.
Oui, mais de toute façon, c'est toujours un petit peu ce côté des réseaux sociaux qui est en train d'abrutir, et je pèse mes mots, une partie de notre jeunesse. Pardon, quand je vois effectivement un môme avec son ex-petite amie qui amène quelqu'un dans un appartement où il y a trois autres filles, puis il la séquestre, il la lacère ou autre. Bon, effectivement, peut-être que ça peut être une revanche dans une affaire de cœur, mais il y a tous les ingrédients. Je mets au conditionnel.
Ils ont filmé hein, les sévices qu'ils ont infligés à jeunes.
Tu sais, ça s'appelle les Red Room, en fait. Ça cartonne chez les jeunes, c'est-à-dire des vidéos où on montre des gens qui se font lacérer. Des fois, ça va jusqu'à la mort. Hein. Sur Telegram, sur Snapchat, il y en a plein. Les Red Room.
Oui. Et des fois, donc, même, si on filme, c'est pour mettre sur les
oui, soit. Et déjà aussi pour tenir la personne, pour lui faire du chantage. Et effectivement, l'humiliation ultime, c'est de mettre sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vois tout ça, moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un réseau de proxénétisme aussi? Parce que moi, qui travaille beaucoup sur les sujets de prostitution, des mineurs, je sais que en ce qui concerne la délinquance des jeunes filles qui est en train de monter aussi, parce que souvent on a une vision très masculiniste de la délinquance des jeunes chez les femmes, c'est en train d'exploser et bientôt elles vont se mettre à tirer, on sera étonné. Moi, quand je vois que on amène quelqu'un dans un appartement, que l'on séquestre, que l'on lacère juste pour une histoire de cœur, juste pour une histoire éventuelle de revenge porn ou parce que un tel m'a trompé, c'est un peu excessif. J'attends la suite de l'affaire et je pense qu'on va découvrir autre chose, soit avec le proxénétisme, soit avec le trafic de stupes, parce que c'est pas possible. Et je réinterpelle les pouvoirs publics sur la délinquance des jeunes filles qui est en train de monter, parce qu'il va y avoir une sorte de mouvement MeToo, mais barbare, parce que les jeunes filles ne voudront plus être juste la petite amie de la racaille ou juste être la mule qui transporte de la drogue ou des armes, mais elles vont commencer à se battre. Et on a beaucoup de cas de bagarres, il y a des rixes déjà, des cas de filles qui se font tabasser
bandes,
par d'autres.
Oui, il y a des bandes, bien entendu,
qui sont en train de monter. Filles en plus, hein, y a et, trois filles sur quatre.
Mais c'est là, c'est pas conscience de faire du mal, de torturer juste coup et filmé en même
14,
temps.
Ça va de 14 à 17 ans, les trois filles.
Mais non, mais aujourd'hui, comme les politiques l'ont dit, 14 ans, 15 ans, aujourd'hui, certains, parce que bien entendu, ce ne sont pas tous les jeunes, sont dans un autre monde, sont dans un autre level, sont dans une autre réalité. Pour certains, ça, c'est la normalité. Quand déjà, je le dis toujours, il y a des tutos sur Internet, des vidéos de meurtres, de viols, de décapitations. Vous avez des jeunes. Quand vous voyez les pouvoirs publics qui disent qu'il y a des jeunes, ils passent 4 à 5 heures par jour. Moi, quand je fais mes ateliers, j'ai des 15 à 24 heures. J'ai des jeunes qui peuvent passer 24 heures sur Internet.
Ça ne transforme pas forcément en monstre.
Bah, tu sais, il y a des jeux
d'actes de torture.
Non, mais quand tu as l'habitude de voir du meurtre, quand tu as l'habitude de voir des cartels mexicains qui assassinent les gens, quand tu as l'habitude de voir des vidéos de décapitation, quand tu as l'habitude de voir des tutos comment fabriquer des bombes artisanales. Moi, j'ai beaucoup de jeunes garçons qui m'ont dit avoir été addict à ce type de vidéos parce qu'ils pensaient que ça allait faire d'eux des hommes et qui se retrouvent à 16, 17, 18 ans à être complètement flingués dans leur tête. Donc, je dis pas toujours que les réseaux sociaux ont créé cette délinquance. Les réseaux sociaux l'ont amplifiée et elle est accessible. Donc, les jeunes sont aseptisés. Ça ne leur fait pas peur. C'est tout à fait normal pour eux, malheureusement.
Antoine,
Un aspect complémentaire, c'est la question du foyer, si je comprends bien.
La jeune fille était dans un foyer.
Elle vient la chercher librement, donc un autre exactement. Mineur peut venir sortir une enfant placée sous la responsabilité de l'État dans un foyer.
Foyers, 15 ans.
Bon, donc on se redit. Le drame, des foyers où en fait l'État ne protège plus la jeunesse dont il a la responsabilité. Et puis deuxième aspect des choses, moi j'entends génération barbare, etc. Moi je connais des jeunes
de 15 ans oui. qui sont pas du tout comme ça.
Donc, faut pas généraliser.
Distinguons évidemment les jeunes. Et moi, je vais aller un poil plus loin encore que toi, Abel. Tu parles des réseaux sociaux. Moi, je vois également la culture racaille qui se développe. Je vois également la présence du rap où dans le rap, on peut
rap, pas tout le rap.
Non, mais dans le rap, certains morceaux, on peut dire ouais, je l'ai mis dans un coffre, je l'ai porté des couteaux,
voilà. Viol,
exactement.
Ça, c'est vrai,
et
c'est vrai.
On laisse librement ces jeunes regarder tout ça. Eh bien, le problème avec n'est pas Internet et les réseaux sociaux. Le problème n'est pas la musique. Le problème, c'est certains morceaux, certaines vidéos, etc., contre lesquelles on devrait lutter beaucoup plus fermement. Et donc, encore une fois, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. À 15 ans, il y a des gens très bien. Il y a des parents qui surveillent leurs enfants, qui leur laissent pas regarder des vidéos à la con, qui leur laissent pas écouter du rap à la con, etc. Et qui élèvent des petits Français qui vont très bien. Et il y a une culture racaille qui se développe. Eh bien, luttons contre la culture racaille.
Je vais revenir à des choses un petit peu plus terre à terre. C'est que ces jeunes n'ont pas besoin d'être lobotomisés par tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a aussi l'effet de groupe et l'effet de bande. Je vous le dis pourquoi. Parce que moi, j'ai un dossier similaire. Déjà, cette jeune femme, cette adolescente, j'ai envie de dire, franchement, j'espère qu'il n'y aura pas de violences sexuelles finalement qui ne vont pas être ensuite dénoncées par rapport à cette séquestration. J'ai un dossier similaire où je passe aux assises des mineurs dans pas longtemps, et là je sais du côté des victimes, et c'est une jeune fille qui avait 16 ans et demi à l'époque, qui a été séquestrée, pareil, torturée, elle a été violée. Elle prenait sa douche, il la mettait sous la douche, et ensuite de quoi, il lui rasait les cheveux. Il lui prenait chaque ongle, il lui retournait l'ongle à chaque fois de l'autre côté. Il l'installait sur le lit, il prenait des sacs en plastique, il brûlait et il faisait couler les gouttes comme ça sur le corps. Donc elle a des stigmates de brûlure sur tout le corps. Sans compter que bien évidemment il ne lui donnait pas à manger, privation aussi pour boire. Et ces jeunes-là, donc les auteurs, et donc pour le coup maintenant sont des accusés qui vont passer devant la cour d'assises des mineurs, et bien qu'est-ce qu'ils nous ont raconté comme histoire ? Ils nous ont dit, en fait, c'était sur fond de trafic de stupéfiants, mais c'était l'effet de bande. C'est parce qu'en fait, il y en a un qui nous a dit, allez, viens, on va faire ça, tu vas toucher un petit billet, et ça s'est passé comme ça. Ça a duré 4 jours, la séquestration, et pendant 4 jours, même eux, en fait, ils se sont pris au jeu. C'est malheureux, mais ils n'ont pas eu besoin d'être, à un moment donné, influencés par les réseaux sociaux. C'était juste l'effet groupe et le fait qu'à un moment donné, à la fin,
mais, ils non, avaient mais touché un petit billet.
Pourquoi ils l'ont torturé? Quel était le but de la torture? C'était quoi, en fait?
Alors, comme je disais, comme c'était sur un fond de trafic de stupéfiants, elle est revenue du Brésil avec soi-disant.
Faisait la mule, en fait.
C'est elle faisait la mule, ouais. En plus de l'escorte, elle faisait aussi la mule. Ouais. Et donc, elle a ramené de la cocaïne en France.
Quel âge ?
16 ans et demi. Et c'était à l'époque en plus du Covid, puisque forcément les procédures sont très longues. Et donc quand elle est arrivée sur le territoire français, elle s'est fait malheureusement arnaquer par une autre bande en disant « Ah tiens, c'est nous qui sommes missionnés pour récupérer la CAM ». Et puis en fait, finalement, il s'avère que c'était une autre...
Et les auteurs des faits, ceux qui l'ont torturé, ils ont quel âge ?
Ils ont, pareil, entre 16 ans et 17 ans et demi.
Et les tous mineurs.
Et les commanditaires.
Qu'est-ce qui
c'est
qu'est-ce
pour ça qu'on passe devant la cause qu'on le passe devant la cour d'assises des mineurs. Ouais.
Qu'est-ce qui risque?
Alors,
parce que
la chance
les mineurs,
que l'on a,
c'est on divise par deux la
peine. Chance que l'on a, et je dis ça parce que cette fois-ci je suis du côté des parties civiles, donc forcément je dis la chance que l'on a, c'est que les auteurs présumés sont âgés entre 16 ans et 17 ans et demi. Donc ce qui veut dire que l'excuse de minorité peut être écartée. Parce que là normalement c'est 25 ans.
Elle est rarement écartée.
Ah non, si, de plus en plus. Mais en revanche, il faut que ce soit une motivation spéciale par la cour d'assises. Donc là, en fait, bien évidemment, moi je vais plaider pour ça, puisque là, les faits sont gravissimes. Mais c'est pour dire que là, la gravité, c'est quoi? C'est qu'il y a 30 ans de réclusion criminelle encourue, l'excuse de minorité, ça ferait 15 ans. Mais bon, donc si elle peut être écartée, ils peuvent être condamnés autant que des adultes.
Mais ils sont où là en ce moment? Ils sont en prison?
Alors, comme le procès malheureusement est a tardé à arriver, puisqu'il y a eu un problème de surcharge d'audiencement au niveau de la cour d'assises, eh bien, ils sont tous remis en liberté.
Donc, ils sont tous remis en liberté.
Ils sont tous remis en liberté, mais ils ont un contrôle judiciaire très strict. Ils ont l'interdiction de rentrer en contact avec ma cliente.
Le fameux contrôle judiciaire très strict. Oui.
Voilà. Mais bon, ils vont y retourner, ça, ils le savent.
Comme celui qui était assigné à résidence en Saône-et-Loire et qu'on a retrouvé à Nice en train de violer une femme de 90 ans. Oui, très strict.
Erwan, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez justement de l'Inspire Bénite, Erwan. Cette affaire vous touche, pourquoi ?
Moi, on va dire que, bien heureusement pour moi, pas dans les mêmes dans la même échelle de gravité, mais j'ai été un peu à la place de cette jeune femme il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai 27 ans, donc moi, à mon époque lycée, j'ai été harcelé par des personnes dont je connaissais, mais j'ai jamais vu vraiment faire les faits. Donc moi, c'était anonyme. Je recevais des pierres depuis l'autre bout de la cour, le scooter tagué avec des joyeusetés. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et déjà à cette époque, en fait, je sentais une certaine, pas vraiment de conséquences à leur action. En allant porter plainte, monsieur, on peut rien faire pour vous. Pas du tout soutenu par la direction de l'école. Donc, j'ai l'impression que l'histoire se répète un petit peu, mais de plus en plus, avec de plus en plus de gravité. J'imagine même pas ce que cette jeune femme a pu subir. Hein. Moi, je me dis que j'ai la chance, entre guillemets, d'être un homme. Donc, en général, ça s'en tient à des violences.
Mais vous avez l'impression que du côté de Pierre Bénit, il y a une espèce de violence comme ça qui s'est installée jeunesse, ouais.
C'est généralement pas qu'à Pierre Bénit. Hein. On va dire que la ville de Lyon a de moins en moins de moyens. Il faut savoir, hein, nous on s'est fait cambrioler la maison il n'y a pas si longtemps de ça. On a voulu aller porter plainte au commissariat. Ils ont mis une semaine à prendre notre plainte. Et le policier m'expliquait qu'ils étaient plus qu'un effectif de 16 comparé à 10 ans en arrière où ils étaient plus d'une cinquantaine. Donc concrètement, il reste plus que les courageux hein, dans les commissariats. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas du tout les moyens de faire leur travail. Ils sont débordés. Et du coup, on en vient à traiter les cas les plus extrêmes. Et en général, le harcèlement est pas vraiment considéré comme des cas urgents à traiter,
oui.
quoi. Donc
prioritaire. Oui.
Et puis, on sait très bien que déjà, il y a une sorte de laxisme sur la justice en France, et d'autant plus avec les mineurs.
Justement, Erwan, ce que vous dites là, ça va attirer notre attention sur la deuxième partie de notre discussion. Parce que là, on a les faits, et puis après, il y a la sanction. Et on va s'intéresser à ce qui se fait en Suède, où on envisage maintenant l'incarcération à partir de 13 ans. Et c'est ce que dit le gouvernement suédois, il faut abaisser l'âge de la responsabilité de 15 ans à 13 ans pour des infractions graves, notamment comme la violence, et la violence qui est liée à la criminalité organisée. Alors, est-ce qu'en France, on doit faire pareil, abaisser l'âge de la majorité pénale à 13 ans pour pouvoir incarcérer des 13 ans? C'est au 32-16 qu'on va continuer d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, en partant de ce qui s'est passé à Oullins-Pierre-Bénit.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Allez, venez discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Il est 11h moins le quart. Nous sommes avec Maître Sandrine Pégan, avec Abel Bouilly et avec Antoine Diers avant d'accueillir François Ruffin tout à l'heure à 11h. Et là, en l'occurrence, on part de ce qui s'est passé à Oullins-Pierre-Bénit dans le Rhône avec cet ado de 15 ans séquestré et torturé pendant plusieurs jours. 4 suspects arrêtés. Quasiment tout le monde est mineur. Hein. Et ça va nous emmener à voir ce qui se passe en Suède où on veut incarcérer dès l'âge de 13 ans. Sont tous les pays hein, qui sont confrontés aujourd'hui à une délinquance de plus en plus jeune, une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, de plus en plus liée aussi à la criminalité organisée, aux stupéfiants notamment. Et la Suède a dit, on va passer la responsabilité pénale de 15 à 13 ans.
Alors, il y a un débat aussi en France. Hein, que faire de ces mineurs de plus en plus violents? Il y a l'excuse de minorité, mais en dessous de 16 ans, elle est automatique. C'est-à-dire qu'entre 16 ans et 18 ans, on peut la lever, mais en dessous de 16 ans, elle est automatique. Ouais, ces mineurs sont jugés moins fortement que les adultes. Et puis, en dessous de 14 ans, on est censé être irresponsable, donc on est même plus jugé, c'est ça, Sandrine Pégan?
Non, c'est en dessous de 13 ans.
13 ans, pardon, 13 ans.
En dessous de 13 ans. Donc nous, en France déjà, puisque donc là, vous parlez de la Suède, en France déjà, à partir de 13 ans, pour bien sûr des affaires gravissimes, on peut être incarcéré.
C'est rare quand même.
Ah oui, c'est rare. C'est rare parce que d'abord, on va privilégier tout ce qui est mesures éducatives, ce genre de choses. Donc, mais la détention provisoire existe, surtout pour des affaires de criminalité. Mais là, la délinquance juvénile et la criminalité juvénile, parce que c'est ce terme-là, elle est de plus en plus importante. Ça, c'est une réalité. Maintenant, abaisser pour la Suède de 15 ans à 13 ans, alors qu'on voit bien que déjà en France, c'est le cas à partir de 13 ans, ça ne change rien, c'est juste un symbole. Moi, je pense que sincèrement, j'y réfléchissais hier, je me disais, pourquoi ne pas créer une circonstance aggravante pour les auteurs adultes qui font appel, parce qu'on a bien compris en Suède que c'était aussi pour essayer de démanteler les gangs, parce que c'est ça en fait le fond du problème en Suède. Moi je me disais, pourquoi ne pas créer une circonstance aggravante pour les adultes qui ont instrumentalisé ces mineurs? Je parle dans les affaires de stupéfiants ou dans les affaires de règlement de compte, puisque comme ces adultes savent pertinemment que les mineurs ne vont pratiquement rien écoper en peine pénale.
C'est pour ça qu'ils les emploient.
Et
oui.
Voilà. Donc je me dis, à un moment donné, il faut aussi frapper les adultes, parce que donc c'est eux qui les instrumentalisent. Ils les utilisent
par exemple,
comme des chairs à canon.
Tueur à gage de 14 ans qu'on avait repéré
dans le Uber,
qui a tué le chauffeur. Ouais. Donc effectivement, il a été
son commanditaire était celui qu'en voilà, prison, qui est un adulte. Donc on devrait créer une circonstance aggravante pour qu'il y ait des peines alourdies pour éviter que justement ces adultes-là instrumentalisent ces gamins, les envoient comme de la chair à canon et deviennent des exécutants.
Mais la différence entre la France et la Suède, c'est que la Suède, ça fait 10 ans qu'elle s'est réveillée sur le sujet. Nous, on a beaucoup dit, oh, c'est depuis le Covid. C'est faux. Ça fait longtemps que les gens s'organisent. En Suède, rien qu'entre 2018 et 2021, t'as eu 1200 fusillades. 345 attaques à l'explosif, d'accord, et près d'une cinquantaine de morts. Il y a un des rappeurs les plus connus de Suède qui s'appelait Einar, qui a été séquestré et torturé pendant plusieurs jours, et il s'est fait assassiner en 2021. Il y a eu des menaces des narcotrafiquants sur la famille royale en Suède. Donc ça fait bien longtemps que la Suède, ce n'est plus le pays d'IKEA ou des Chris Prolls, en fait.
Mais c'est plus le pays tranquille.
Il y a le port de Göteborg.
Qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Une immigration massive.
Il y a le port de Göteborg aussi, qui est pareil, une passerelle pour le trafic de stupes. À Rotterdam, qui est pas très loin. Donc la réalité, c'est qu'il y a une situation qui est dramatique. Maintenant, concernant cette mesure suédoise d'abaisser la prison, en tout cas de mettre la prison dès l'âge de 13 ans, c'est très contesté au sein de la police et même des syndicats de l'administration pénitentiaire, parce que déjà au niveau de l'âge de 15 ans, ce n'est pas tout le temps appliqué, et encore aujourd'hui vous avez des prisons qui sont en cours de réaménagement pour agrandir le nombre de places et accueillir des criminels de 15 ans, donc c'est beaucoup plus compliqué, sans compter que aussi il n'y a pas de prévention, on a pris beaucoup de retard, les réseaux sociaux, l'effet de bande, et je finirai dessus, quand on parle de l'effet de bande, il faut toujours comprendre la psychologie au-delà des questions d'immigration. Vous avez deux règles à l'effet de bande. Un, c'est créer ses propres règles en dehors des règles de la République, et deux, c'est prendre possession d'un territoire. Mmh. Donc là où la République recule, la bande va prendre le territoire, et ce territoire, ça peut être un banc, ça peut être une école, ça peut être un quartier tout entier. Donc aussi, il faut plus de présence de la République dans les territoires, et notamment là où on a ghettoisé, dans les quartiers populaires.
Moi, j'ai envie de regarder la réalité carcérale en France. Le chiffre est difficile à confirmer, mais a priori, il y aurait 700 mineurs emprisonnés en France. Je le lis avec toute précaution, mais en tout cas, c'est pas beaucoup.
Oui.
C'est pas beaucoup. On emprisonne très peu de mineurs. Et j'ai pas parlé de 13 ans. J'ai parlé de mineurs. Donc, ça existe, mais le juge emprisonne peu un mineur. Alors qu'en réalité,
c'est très bien pourquoi
je vais te dire pourquoi il devrait en emprisonner plus. Je vais te dire que la justice, elle est fondée sur plusieurs éléments. La première des choses, c'est le discernement. C'est être en mesure de savoir qu'on a fait le mal ou que c'était mal, ce qu'on a fait. Je pense qu'à 13 ans, on est en mesure de comprendre qu'on fait le mal. La justice, ensuite, c'est un effet dissuasif.
Pas à 13 ans, Antoine.
Peut être manipulé, alors, on peut être mis sous emprise.
Attendez, c'est votre avis. Moi, je pense qu'à 13 ans, on sait quand on fait du mal. Quand on plante un couteau dans le dos d'une jeune fille dans une cave à Oulins, je pense qu'on sait que ce qu'on fait, c'est mal. Ensuite, c'est un effet dissuasif. Vous l'avez dit, les jeunes ne sont pas sanctionnés, donc les adultes les utilisent. Mais en réalité, si les jeunes étaient sanctionnés massivement, rapidement, avec efficacité, ils ne se risqueraient plus à être les petites mains d'adultes délinquants.
Mais ils prendraient plus jeunes encore.
Il y a une dimension, c'est la protection de la société. Je le redis toujours. Le rôle de la justice, c'est de protéger la société de ceux qui portent atteinte à d'autres et à l'ordre public. Eh bien, il y a des mineurs qui sont dangereux et qui doivent donc être enfermés. Et enfin, pour les mineurs, la prison peut être un levier éducatif. Toi, l'éducateur, tu nous dis toujours, il y en a, on n'arrive pas à les rattraper, etc. Eh bien, tu les mets en prison, tu les bloques et tu les rééduques dès 13 ans. Non. Donc moi, je pense vraiment que c'est même rendre service à celui qui est parti complètement loin, là, qui est dans le trafic de drogue, etc. Tu le sors de son milieu, tu le mets en prison.
Et tu le mets en prison avec des criminels alors qu'en prison,
c'est illusoire.
Ça, c'est un argument.
C'est illusoire.
C'est
des quartiers pour mineurs.
Ils ont des places dédiées. Mais c'est illusoire.
Non, mais même dans les quartiers pour mineurs, t'as des centres de formation de la délinquance. En fait, ce que vous voulez
balancer, c'est qu'on appelle
les prisons, alors. Même le modèle de l'adulte qui recrute les mineurs. Aujourd'hui, beaucoup de proxénètes, ils ont 17 ans.
Donc, on fait rien.
Beaucoup de têtes. C'est bien, je dis pas, on fait rien. Moi, je suis pour les éradiquer de la société, mais il faut avoir un plan prévention, sanction, répression. Toi, tu fais partie un petit peu, tu parles un petit peu comme certains élus qui ont un discours de cow-boy, ouais, faut les foutre en prison, ou les autres, faut les renvoyer chez eux. Qu'est-ce que tu fais en amont pour que ça n'arrive pas?
Mais je t'ai pas dit que je supprimais la prévention.
Tout commence par là.
On n'est plus sur la prévention. On parle de mineurs délinquants. La prévention, c'est avant qu'ils soient délinquants. Oui, là, il n'y a plus de prévention. Il y a sanction, il y a préservation de la société et il y a rééducation de l'enfant.
Antoine, pour répondre à ce que tu disais, c'est que malheureusement, ça ne tiendrait pas pas ce que tu dis. Pourquoi?
Parce qu'on a fait les centres éducatifs fermés. Visiblement, c'est ça a des limites.
Mais oui, ça. Mais justement, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce genre de structure-là, eh bien, en fait, ça fabrique de la récidive. Il n'y a pas assez de suivi. Non, mais c'est véridique ce que je te dis. C'est-à-dire que aussi bien au niveau des mineurs qu'au niveau des adultes, il n'y a pas de suivi au sein même de ces structures. Donc, comment tu veux qu'un jeune comprenne qu'à un moment donné, il a failli et qu'il est allé dans la délinquance ou dans la criminalité, s'il ne comprend pas au sein même. À partir du moment où il y aurait un suivi qui serait mis en place.
Juste un mot. Tu es en train de me dire que le mineur qui passe dans un centre éducatif fermé est plus récidiviste que le mineur qui n'aurait pas été sanctionné. Ça ne tient pas, ton truc.
Non, c'est
qu'il
juste
y ait encore de la récidive. Bien sûr, il y a des cas perdus. Mais il n'y a pas plus de récidive parce qu'on a emprisonné le mineur,
Mais s'il est enfermé et qu'à l'intérieur même de cette structure, il n'y a pas de suivi, comment tu veux qu'il comprenne? Donc lui, oui, en fait, il va juste être là en train de dire, la justice m'a condamné injustement ou on m'enferme pour rien. Il ne comprend pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans ses traumatismes. Il va vouloir se venger.
Il y a des mineurs qui n'ont même pas peur de la mort.
Oui, non, mais d'accord. Une fois que tu dis ça, la logique de la justice pour enfants, c'est de dire pas de sanction au début, un rappel à la loi.
Oui, parce qu'on peut toujours rattraper le mineur.
Oui, mais moi je crois pas. Moi je crois qu'au contraire.
Il a 13 ans, ça
reste un enfant. Justement, je crois que si tu donnes une sanction, l'enfant comprendra que ce qu'il a fait n'est pas bien et recommencera moins.
Alors,
si tu
donnes pas sanction à un moment
donné, c'est une question de bon sens, je pense.
Attends, on a. Pour toi, si on.
Mais dans l'éducation, si. C'est en éducation, si tu menaces.
Mais dans l'éducation, tu parles avec ton enfant.
En général, l'enfant.
Mais tu lui expliques.
S'il vous plaît, Christophe, qui va intervenir.
C'est animé parce que c'est
il est routier en Eure-et-Loire. Bonjour Christophe.
Bonjour à toute l'équipe.
D'accord pour incarcérer des 13 ans?
Oh, tout à fait. Tout à
Pourquoi
fait. Déjà, ça passe par l'éducation des parents, punition des parents. On ne comprend même pas qu'on puisse en arriver là à séquestrer une gamine de 13 ans. Je trouve ça honteux. Un peu plus de moyens pour la justice, qu'elle soit vraiment plus dure avec eux. Quitte à utiliser mon argent, que l'argent soit bien utilisé, faisons des bâtiments exprès pour les réinsérer dans la vie civile. Les punitions, il faut que ça soit durement, comme je disais dans le message, tu veux faire des choses comme les grands, bah t'es puni comme un grand. Je suis désolé, moi tu fais ça à ma fille, ça serait compliqué quoi. Je veux dire, je pense que la justice en France, elle est pas assez dure, que ça soit 13 ans, 20 ans, 30 ans, punition. Sévèrement, et les parents, que ça soit vraiment, vraiment puni. Je vois même pas comment les gamins peuvent en arriver là à séquestrer une personne. C'est lunaire. Pour moi, c'est lunaire. D'arriver à cet âge-là, faire ça, je trouve ça lunaire.
Donc, il faut enquêter aussi sur effectivement ces enfants. Ils ont des parents, qu'ont fait les parents. Quel est, je suis d'accord avec vous.
Il faut là, visiblement, dans l'affaire, non, parce que c'est dans un foyer.
Non, mais là, c'est la victime. Je parle des bourreaux.
Voilà, c'est bien beau de punir les enfants. Il y a les parents derrière. Que font les parents?
Qu'est-ce
comment
ça se
fait que leur gamin puisse séquestrer une personne à cet âge-là, quoi. C'est
sans doute eu quelques loupés.
Christophe, je vous remercie d'avoir été avec nous. Prison des 13 ans en Suède. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire la même chose en France? Christophe dit faut sanctionner les parents aussi. Vous dites oui à plus de 90%. Dans un instant, suite et fin des GG. Enfin, suite et fin, c'est la dernière heure des grandes gueules. On a François Ruffin qui sera avec nous. Et puis, on va s'intéresser aussi. 90% des Français aujourd'hui dénoncent le coût devenu insoutenable de quoi ? Des voitures, l'achat, le crédit, l'assurance, les parkings, les amendes. Avoir une bagnole aujourd'hui, ça coûte un rein et un œil. Bref, une blinde. 32-16 pour en parler avec nous.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.